Deuxième sujet sur lequel je voudrais dire un petit mot, évidemment, puisque c'est la pleine actualité, c'est la PAC. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la PAC. On va vous dire deux choses simples. D'abord, la première, et il faut savoir le dire quand les choses sont, de manière objective, quand les choses sont avérées, nous sommes évidemment déçus d'avoir un budget de l'Europe en baisse. En baisse de 3% et une PAC en baisse de 15 à 16%. En revanche, la situation française, il faut bien le comprendre, finalement, la France s'en sort beaucoup mieux que ses voisins dans cette négociation, simplement parce que le président de la République, je dirais à l'image aussi de ses prédécesseurs, a mis à travers la PAC beaucoup d'ambition, beaucoup de velléité, beaucoup de pugnacité pour obtenir pour la France, justement, un retour bruxellois, un retour communautaire qui soit de meilleure facture que ce qui a été proposé par notamment la présidence, par M. Van Rompuy. Et comment ça a pu être possible? Simplement, la France a cherché des alliés dans cette négociation et elle a trouvé des alliés à l'Est en soutenant une politique de cohésion. Et ce soutien à la politique de cohésion pour les pays d'Europe centrale et orientale nous a permis de récupérer ce qu'on appelle publiquement le chèque anglais, mais dont la France n'avait pas accès jusqu'à maintenant. Le chèque anglais, en fait, c'est une ristourne annuelle qui provient des crédits non engagés et qui sont ristournés à un certain nombre d'États membres, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, quelques-uns. La France n'avait pas accès à ce dispositif, et donc la France a récupéré sur le deuxième pilier de la PAC l'équivalent de ce que reçoivent justement ces pays à travers cette ristourne annuelle. C'est un point important, puisque là où la plupart des États membres vont avoir une baisse de l'ordre de 15 à 17% de leurs ressources sur la PAC, je reprends là les chiffres de l'Élysée, hein, je pense que ce sont de bons chiffres, il n'y a pas de raison de couper. La France finalement se retrouve à peu près étale sur la période 2014-2020 au regard de ce que serait l'année 2013 par exemple, si on devait multiplier l'année 2013 sur 7 ans, 2014-2020. En gros, 2013 sur 7 ans, c'est 64 milliards d'euros. 2014-2020, dans les purs pour la PAC pour la France, ce sera aux alentours de 63,5 milliards, ce qui veut dire que l'épure budgétaire est satisfaisante. La deuxième étape, et c'est le deuxième point que je voudrais développer devant vous, ce sera évidemment la mise en œuvre de cette PAC avec un certain nombre de questions. Alors, il y a des questions autour du verdissement de la PAC. La France, et l'AFLSE en particulier, ne s'est pas opposée au verdissement. Elle demande simplement à aménager un certain nombre de ces mesures. Il y en a une qui vous concerne ici, parce qu'il faut en parler. C'est la question de la monoculture, et en l'occurrence de maïs, sur lequel nous devons trouver une adaptation. Ce qu'a dit Jean-Louis à l'instant, moi je le partage. Arrêtons, cessons de faire du maïs, la plante qui doit supporter toutes les critiques et qui doit être mise en cause. C'est une plante qui valorise aujourd'hui un potentiel agronomique et de fait qui répond aussi à des besoins, notamment en matière d'élevage. Donc soyons peut-être un peu plus zen, entre guillemets, sur cette question-là. En tout cas, nous défendrons l'idée d'adapter la mesure dite monoculture pour en fait deux grandes régions, sud-ouest et Alsace. Ce sont les deux régions qui sont concernées par ce dispositif. Deuxième sujet important, ça sera la répartition des aides, notamment des aides du premier pilier, pardon, avec deux questions essentielles. Le recouplage d'une partie des soutiens. Pour quelle production? On sait qu'en viande bovine, en ovine, la question ne se pose pas. Il y aura du recouplage. Faut-il aller sur d'autres productions? Jusqu'à quel niveau? Et avec quels moyens? L'Europe aujourd'hui dit jusqu'à 15% les aides du premier pilier pourraient être recouplées, à voir si on va jusqu'à 15, et encore une fois, sur quelle production et dans quelle proportion. Ce seront des débats qu'il va falloir mener. Nous allons faire en sorte, évidemment, de prendre part au débat. Je dis d'ailleurs ici, de manière tout à fait sereine et tranquille, que nous préférons débattre entre nous et essayer de trouver la moins mauvaise des solutions. Je ne dis pas la meilleure, parce que je ne suis pas rêveur, mais la moins mauvaise des solutions, et faire en sorte que ce soit cette solution qui s'applique. Je pense que la pire des solutions, c'est laisser le ministre arbitrer seul. Alors, ça ne veut pas dire que les ministres font n'importe quoi. C'est simplement, il y a un moment, il faut être aussi un peu co-responsable et nous essaierons en tout cas de l'aide sur ce sujet-là. Deuxième aspect sur les aides, c'est ce qu'on appelle la convergence. La demande de Bruxelles aujourd'hui, c'est de rapprocher en fait les écarts entre régions et entre productions. Ce qui n'est pas une mince affaire, puisque la variabilité, les écarts aujourd'hui entre les paiements hectares, puisque tout est ramené à l'hectare, vont de une centaine d'euros à l'hectare jusqu'à 500 euros à l'hectare. Ce qui veut dire qu'évidemment, si on doit rapprocher tout ça, certains vont gagner, certains vont perdre. Là aussi, ça va être un débat difficile, mais il faut que nous l'ayons. Et dans ce débat, je rejoins ce qui a été dit à l'instant, il faudra prendre en compte évidemment la particularité des productions en particulier et des régions, mais des productions en particulier sur l'élevage. Ce sera un débat sans doute difficile, mais une petite chose au passage quand même que je voudrais dire devant vous, parce qu'elle n'est pas anodine du tout. Depuis une douzaine d'années, la FNSEA demande à Bruxelles d'avoir ce qu'on appelle un minimum de flexibilité sur ses soutiens agricoles. C'est-à-dire au fond, d'une année sur l'autre, pouvoir adapter en fonction des situations de marché, avec un pourcentage défini à l'avance, des marges de manœuvre pour aller d'un secteur à l'autre. C'est-à-dire qu'en 2012, si on avait basculé quelques pourcents de soutien végétal sur l'animal, ça n'aurait pas fait grimper au rideau les céréaliers ou les producteurs de l'ingénieur. Bon. Ça n'est pas possible dans la PAC actuelle, ça ne sera pas possible dans la PAC future, pour des raisons d'ailleurs liées à l'OMC, liées à des tas de réglementations, dont d'ailleurs les Européens sont souvent les seuls à appliquer à la lettre ces réglementations. Nos cousins américains, à la limite, ça soit dessus et ça pose le problème à personne. Je rajoute ça au passage. Donc, ce que nous avons prévu, et je salue Henri-Bernard Cartier qui est ici, mais un certain nombre de dirigeants des Adorama, les structures associatives du végétal, qui ont fait une proposition de mettre sur pied un dispositif, alors non pas de solidarité compassionnelle, mais de solidarité active, de solidarité stratégique, par un prélèvement des années où le cours des céréales, des oléagineux, passe au-dessus d'un certain niveau, par un prélèvement à la tonne, pour alimenter un fonds qui sera destiné justement à la modernisation, à la compétitivité des filières élevages. Je dis que ça n'est pas anodin parce que si nous réussissons ce dispositif, d'abord ça marquera une volonté, et elle n'est pas nouvelle, mais que la solidarité en agriculture, ça n'est pas un vain mot, mais encore une fois, ça n'est pas une solidarité passive. C'est rentrer dans un schéma où chacun comprend aujourd'hui que nous sommes de plus en plus interdépendants d'une filière à l'autre, que par ailleurs, si nous voulons repenser une économie agricole peut-être plus circulaire, végétale, animale, effluents d'élevage qu'on peut méthaniser avec lequel on va faire de l'énergie et des digestats qu'on va ramener sur les productions végétales, il y a un ensemble de dispositifs aujourd'hui qu'il faut repenser, et c'est dans cette dimension-là que nous voulons nous aussi avancer. Donc, ce fonds se mettra en place. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a des tas de discussions juridiques, techniques, etc. Mais en tout cas, il y a la volonté de faire, et je le répète, c'est refaire ce qu'on appelle dans le jargon une forme de contrat cyclique privé par versus un contrat cyclique de type flexibilité sur les aides de la PAC. Et puis, il y a un troisième sujet sur la PAC qui nous intéresse, et je regarde Madame la conseillère régionale en disant cela, c'est le plus ou moins de régionalisation de la PAC. Et là, il y a un différent, je préfère le dire aussi clairement que nous pensons. Nous avons un différent aujourd'hui avec l'Association des régions de France. Je dois dire peut-être un peu plus avec M. Souchon qu'avec ses collègues, M. Souchon qui est président de la région Auvergne, mais qui est en même temps le porte-parole pour l'agriculture de ses collègues. Nous n'accepterons pas une gestion directe et entière du deuxième pilier par les régions. Je crois que ça n'aurait pas de sens, je préfère le dire. Nous ne pouvons pas envisager demain qu'une politique d'installation, une politique de correction de handicap et quelques autres politiques de mesures environnementales soient régionalisées. Ça reviendrait à dire que nous pourrions avoir 22, entre guillemets, petites politiques agricoles régionalisées. Ça n'a pas dans le sens. Et puis j'ajoute à ça que quand on parle du deuxième pilier, n'oublions jamais qu'il y a 50% à cofinancer. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que sans une réforme fiscale concernerait un rééquilibrage de la fiscalité entre les collectivités, on puisse demander à certaines de ces collectivités d'apporter les 50% du financement communautaire. Donc, nous ne disons pas non à une forme de régionalisation, mais il faudra la mesurer. En tout cas, c'est le message aujourd'hui que nous adressons à la fois à nos tutelles, au ministre en particulier, mais aussi à Alain Rousset, à l'Assemblée des régions de France. On n'est pas tout à fait d'accord, j'espère qu'on trouvera quand même une sorte de médiane. Il est tout à fait évident que par des fonds régionaux, on pourrait soutenir, par exemple, telle ou telle filière qui a une dimension régionale, par exemple, ou tel aspect ayant une dimension territoriale. Nous ne sommes pas opposés à ça, mais attention.